Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à toutes et à tous. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Résonance vous emmène aujourd'hui en Algérie, plus précisément à Annaba. Située à l'extrême nord-est de l'Algérie, entre le fleuve Sébouz et la frontière tunisienne, Annaba s'étend sur une superficie de 1412 km² et elle est une des plus vieilles cités de la côte africaine. Prenons tout d'abord le temps de découvrir la ville d'Annaba, cité qui a été fondée en 1295 avant Jésus-Christ. Sa rade immense, ses étendues de plage, son abri naturel et la darse qui désormais lui sert de port autant que d'atout que les habitants ont su exploiter depuis le début de la navigation en Méditerranée. Elle portait autrefois le nom de Beaune. Riche de son histoire, Annaba abrite de nombreuses traces de la présence de l'homme préhistorique, notamment dans la zone de Ras al-Amra. On ne peut pas citer l'histoire de Annaba sans mentionner Hippone, l'Hippo Regius Colonia des Romains. La ville fut mêlée aux trois guerres puniques de Rome contre Carthage. Et après la victoire de Rome, Hippone fut la deuxième capitale, de la Numidie. Au cœur du développement du christianisme, avec l'évêque Saint-Augustin, Hippone fut par la suite occupée par les Vandales après sa mort, en 431. C'est suite aux invasions arabes que Hippone devient Beaune. Le vrai nom de Annaba n'apparaît finalement qu'à partir du XIVe siècle. Aujourd'hui, Annaba est une ville très animée avec près de 650 000 habitants, possédant un centre-ville, un front de mer et une corniche qui a gardé toute son authenticité.
Yeah. Oh, my God. عيون من عيون من عيون مرادي عمري عمري.
Résonance sur Radio B avec le centre El Anna à Annaba. Alors nous venons d'entendre un des personnages importants de la musique malouf qui donc a lieu sur Constantine, sur Annaba, dans toute cette région, et avec justement Hamdi Benani, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelque temps lors de ce reportage en février, début février à Annaba. Et là, nous avons entendu une chanson intitulée « Anna Lady Saye Feya » et qui donc est interprété par Hamdi Benani, accompagné de tout un orchestre autour de lui, musicien que l'on nomme souvent l'homme au violon blanc ou l'ange de l'Andalou. Il a contribué, comme d'autres grands maîtres l'ont fait avant lui, à faire connaître le malouf au niveau international. La chanson malouf, musique, est une musique populaire inspirée de la vieille Andalousie arabe. Et ce mot signifie en arabe « fidèle à la tradition ». Fidélité au patrimoine musical qui s'est enrichi dans l'Andalousie du 8e au 15e siècle, dans les cours royales, les cénacles intellectuels et les jardins des délices à Grenade, Cordoue, Séville, mêlant musulmans et juifs, dans la célébration de l'amour courtois et de l'élan vers Dieu. Avec l'expulsion d'Espagne en 1492 des musulmans et des juifs, s'est fermée une page dont les échos cependant perdurent dans l'Ibérie d'aujourd'hui. À la demande de l'Institut français d'Annaba et de son directeur Bertrand Furic, Résonance Contemporaine accompagne l'équipe éducative du centre El Anna, qui dépend de l'association d'aide aux enfants handicapés mentaux, pour que celle-ci puisse mettre en place une pratique musicale régulière, conduire des démarches de création et mener de manière autonome son propre projet d'ici 2 années. Pour préparer cet accompagnement, une première rencontre avait eu lieu en octobre dernier à Aix-en-Provence avec M. Amara Alaf, président de l'association El Anna. Cette rencontre importante et fondatrice a permis de débattre librement sur la nature du projet, ses enjeux, les développements espérés du côté de l'association El Anan et de commencer également à planifier l'accompagnement de Résonance Contemporaine en la matière et de préciser le contenu de celui-ci. À la suite de la rencontre avec M. Amara Alaf, Résonance a accueilli le mois suivant, en novembre, du 25 au 30 novembre dernier, à Bourg-en-Bresse, Selma Guémari, orthophoniste, responsable de l'encadrement de ce projet musical dans le cadre du centre El Anan à Annaba. Voilà. Peut-être puis-je vous redemander votre nom ?
Oui, c'est Rim Rashdi. Voilà. Je suis la maman de Ed, qui est ici au centre.
Ça fait combien de temps qu'il est accueilli ici dans le centre ?
Ça fait une année qu'il est là, presque une année et quelques mois.
Et vous me disiez que voilà, c'était pas simple de trouver un centre pour prendre en charge votre enfant.
Oui, c'est le meilleur des centres que... Bon, il y a d'autres centres. Je suis partie faire un petit peu... les centres qu'il y avait ici dans la région.
Ouais.
Mais la plupart, c'est des centres où c'est comme une garderie. On garde les enfants sans les former.
Mmh.
C'est-à-dire juste pour les surveiller pendant la journée. Après, ils rentrent chez eux. Mmh. C'est comme un échappatoire pour les parents. Hein.
Oui, c'est ça. Et donc, il n'y a pas vraiment un travail d'accompagnement des enfants éducatifs.
Pas comme ici, oui.
C'est ça.
Oui.
Et là, comment vous avez su que ce centre existait ici à Annaba ?
C'était une anecdote. Hein, c'était au moment de la circoncision de mon fils. Le chirurgien pédiatre qui s'est occupé de lui m'avait parlé du centre. Il m'avait dit qu'il y avait une personne avec eux, une secrétaire qui travaillait au sein de la clinique, qui avait son fils qui est ici. Et qu'il était vraiment très épanoui et qu'il fallait venir voir ici. Et finalement, au sein de cette clinique, cette femme aide le personnel ici à trouver des rendez-vous. Il les aide. Le papa aussi, le monsieur, le mari de cette dame, il vient ici pour aider, faire du bénévolat, faire de la peinture ici, à son temps libre, un peu faire du jardinage. Pour aider, c'est comme ça que j'ai su. Après, je suis venue. Comme je vous ai dit, il y avait un problème un peu de transport venir ramener mon fils. Et dès que le problème s'est réglé, je suis vite venue.
Mais parce qu'en plus, vous avez un métier, vous êtes pharmacienne.
Je suis pharmacienne, oui. Bon, il y avait un peu de difficulté au début. Après.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est votre, votre fils aîné.
Voilà, c'est mon aîné.
Donc, voilà. Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Ed. Voilà. Oui. Comme c'est mon aîné, donc je pouvais pas faire la différence. Je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Ici, il n'y a pas d'accompagnement.
On n'accompagne pas les familles.
Voilà, il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Je me rappelle, mon fils, j'ai su qu'il était trisomique quand il avait 12 jours.
D'accord.
Il était un peu pâle, donc je suis allée consulter.
Vous êtes inquiétée. Ouais.
Voilà, pour l'ictère du nourrisson. Et il y avait, je me rappelle, le chef service de pédiatrie qui est venu comme ça me regarder et m'a dit « Hey, vous, votre fils, il est, vous savez qu'il est trisomique ?» Je l'ai regardé, moi, même pas, elle est venue, genre…
Oui, vous expliquez tranquillement.
Tranquillement.
Oui, ça vous a été dit brutalement, quoi.
Brutalement, elle est venue me dire… Il faut que vous faites, que vous fassiez un cariotype pour votre fils parce que il est trisomique. Bah, je l'ai regardé comme ça du jour au lendemain. Ma vie était.
Mais bien sûr, chamboulée complètement.
Chamboulée, j'ai pas.
Et personne vous a accompagné dans cette phase-là.
Du tout, il y avait personne.
Ouais.
Après.
C'est là où on voit qu'il y a, vis-à-vis de la personne en situation de handicap en général, mais en Algérie, la place est difficile de ces personnes, elle n'est pas tellement reconnue.
Oui. Elle n'est pas reconnue. Il y a toujours la peur de la différence.
C'est ça.
Il y a toujours la peur. Mais l'instinct maternel,
il est le plus fort.
Il est le plus fort.
Et est-ce que les parents ne se mettent pas, justement, vu cette difficulté qu'il y a ici en Algérie, est-ce que les parents ne se réunissent pas en association aussi pour pouvoir...
En général,
pas trop.
Pas trop.
Ouais, ils ne le font pas pour le moment.
Ils ne le font pas pour le moment.
Oui.
Merci. Oui, c'était juste pour terminer là-dessus.
Oui, pour l'association des parents. Je vais vous dire, en général, c'est des vieilles femmes.
Ouais.
Parce que moi, j'ai eu mon fils à l'âge de 26 ans.
D'accord.
Donc, je suis un peu avertie quand j'ai étudié. Je suis pharmacienne. Mais la plupart du temps, les femmes qui ont des enfants trisomiques, c'est leur dernier enfant. Elles ont 40 ans. Elles ont, je sais pas, elles sont... des femmes au foyer qui ont déjà eu d'autres enfants, ils ont d'autres occupations, donc le dernier enfant, je sais pas, peut-être il n'y a pas beaucoup de...
C'est ça.
Ils sont pas informés, ils se réunissent pas, il n'y a pas de contact entre les parents.
Donc, chacun est un peu isolé.
Voilà,
quoi.
Chacun est isolé. Parfois, on se retrouve ici
au centre.
Voilà, quand il y a des fêtes, quand il y a, on parle du quotidien de nos enfants, de qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas à l'école. On trouve, mais c'est réconfortant.
C'est important.
Moi, j'aurais aimé s'il y avait des gens, même les contacter par téléphone, discuter de nos enfants,
de vos problématiques, de ce que vous rencontrez.
Voilà.
Donc là, c'est tout un chantier finalement qui est à faire.
Voilà.
Merci.
Ce serait bien d'avoir au sein de notre association parfois des journées
pour les parents, justement.
Pour les parents, où les parents peuvent se réunir.
Ça, c'est peut-être une idée à soumettre à M. Alaf. De dire pourquoi pas aussi avoir des temps de rencontre et d'échange entre les parents.
Parce que parfois, on s'entraide.
Bien sûr.
La dernière fois pendant l'été, parce que ici les vacances c'est comme l'école primaire, c'est presque 3 mois d'absence dans l'école. Les enfants s'ennuient parce qu'ils ont un certain rythme. Bien ici sûr. À l'école, il y a une maman qui s'est plaint, elle a dit mon fils était trop agité et tout. Elle a dû contacter la directrice et l'orthophoniste. On lui a expliqué, on lui a donné des jeux. On lui a expliqué qu'est-ce qu'il fallait
essayer de faire
avec son enfant à la maison, faire du coloriage, l'occuper à faire un peu de peinture, je sais pas, il y a des livres spéciaux
bien sûr.
Pour les occuper. Parfois l'enfant il est agité, il s'ennuie, il sait pas quoi faire.
Un artiste,
oui,
à peu près en France,
un
artiste. Ah, d'accord.
Ils font des ateliers ici, ils font des ateliers créatifs, ils font ils font des ateliers de bois aussi en ce moment.
C'est sûr qu'on leur ouvre à beaucoup de pratiques et de disciplines aussi artistiques en même temps. Et bon, ils ont un travail éducatif.
Ils font beaucoup de choses, mais le souci c'est que c'est pas à la portée de tout le monde parce que leurs prix sont plutôt exorbitants. C'est juste pour les enfants des riches, entre parenthèses.
C'est ça.
C'est pas tout le monde qui peut mettre son enfant. On manque beaucoup
d'établissements qui puissent permettre à tout le monde et de structures
pour les enfants, parce que les enfants, comme je vous ai dit, le système scolaire, il a bousillé nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de ce genre d'atelier, d'avoir des endroits où ils peuvent faire des travaux manuels, faire du dessin, faire des cours. Mais ils sont bien à un artiste. Ils font des cours de peinture pour enfants, des cours.
Donc cette association, elle est à Annaba.
C'est pas une association, c'est une personne qui a décidé de faire. D'ouvrir un établissement pour les enfants.
Oui, je crois que Monsieur Furic, en circulant dans Annaba, m'a montré l'endroit où c'est. Effectivement.
C'est à côté de l'hôpital.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et ils font de la danse classique.
Très bien. Oui, c'est vraiment un lieu où on les initie à des disciplines artistiques.
Mais c'est pas à grande échelle.
C'est vraiment quelques personnes. Quoi.
Voilà. C'est pour des enfants privilégiés, pas pour le peuple. Quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, de ce témoignage.
Merci beaucoup.
Merci.
Ça m'a fait plaisir.
De même.
Résonance sur Radio B avec le centre El Anna à Annaba. À travers le témoignage de cette maman que nous venons d'entendre, nous pouvons mesurer que la situation des personnes en situation de handicap en Algérie n'est pas très simple et souvent que celle-ci est victime d'une double peine, leur handicap mal pris en charge généralement et les difficultés de vie dans une société qui ne leur est pas adaptée. Les personnes en situation de handicap en Algérie sont au nombre de 2 millions, chiffre officiel, et selon toute vraisemblance, elles ont depuis fort longtemps atteint les plus de 3 millions, soit les 10% environ de la population prévue par l'Organisation mondiale de la santé. S'il est vrai que les handicapés bénéficient en Algérie de programmes de prise en charge à travers des centres spécialisés gérés par le ministère de la Solidarité, c'est aussi une affaire de mentalité à faire avancer, où le handicap, comme l'explique un universitaire spécialiste de la question, n'est pas toujours ou ne rime pas toujours avec limitation, incapacité, inadaptation, drame, etc. Mais il signifie aussi des restes à développer, des potentialités à explorer, des tabous à dépasser et des préjugés à bannir. Il y a donc la nécessité de trouver des solutions dans tous les domaines pour permettre, notamment, à une association comme celle d'aide aux enfants handicapés mentaux installée à Annaba, de faire fonctionner un centre tel que celui de El Anna. Il faut mobiliser, expliquer, sensibiliser, solliciter des aides, du bénévolat, des dons. Monsieur Alaf, président de l'association, entouré de la directrice du centre, Madame Linda Chali, de parents et de personnes souhaitant venir en aide au centre et à l'association, entre en discussion.
Je lui ai dit, mec, il m'a dit, moi je fais pas confiance aux associations. Je lui ai dit, mais ils n'ont pas besoin que d'argent.
vous pouvez aider autrement que donner de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez les aider à travers, je ne sais pas, il y a des enfants qui ont besoin de vêtements.
Non,
vous
sûr.
Pouvez
bien
les
bien
aider.
Surtout les médecins, on a besoin d'ailleurs. On, voilà, a, on a une convention
une
avec la clinique.
J'ai fait une dans un groupe de médecins, parce que je suis les anciens de la faculté de médecine. J'ai dit, quand on a un centre, vous pouvez faire du bénévolat de temps en temps, venir faire des consultations gratuites. On ne vous demande pas que de donner
que l'argent.
Mais c'est la moindre des choses. Où je suis, tant qu'il y a un médecin spécialiste ou là généraliste, il vient à Raqqa, marra il dit marra fi semaine a fi hayat ou chisra ou misra ou elle.
J'ai la personne qu'il faut pour ça.
On a par exemple une convention, on a une convention avec la clinique Jazair. C'est moi qui l'ai construite, Jazair. C'est un très bon ami. Il a dit, tu emmènes. Donc il y a un programme, quoi. Parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il ne suffit pas de venir pour venir.
Voilà.
Donc avec le directeur de la santé, il nous a offert toute l'infirmerie, le lit, le bureau, c'est la santé. Et on a demandé à faire un programme. On était comme ici, il y avait les médecins, il y avait le directeur de la santé et moi. On s'est dit, on fait un programme. Il a désigné Flan. Toi, tu t'occupes de la région, donc tu viens, tu fais un programme, toi, tu démarres. Ils étaient d'accord. Quand ils ont bien mangé, ils étaient d'accord. Et après, j'appelle le beau. Au bout d'un mois, j'appelle la directrice, je fais, ils sont venus, vous avez fait un programme, il dit, j'ai pas d'appel. Deux mois, on attend, pas d'appel. Trois mois, j'appelle le directeur. Fou d'orage, il m'a dit, oh. Il a dû pousser un peu. Hein. La personne qui était chargée de venir ici, elle est venue. Elle dit, bon, quand est-ce qu'on fait un programme? Elle a fait un programme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu. Ouais. Mais pour vous dire que c'est... Il ne suffit pas de dire oui. Si vous voyez n'importe qui, de toute façon, en Algérie, tout le monde dit oui.
Voilà.
Tout le monde dit
c'est
oui.
La durabilité.
Non, mais...
On peut venir aujourd'hui, voilà.
Mais moi, ma question à mes amis des pharmaciens, si vous connaissez, c'est pas ça. C'est essayer de trouver une formule pour les faire venir.
Voilà.
Pour les sensibiliser, c'est la formule. Si c'est vrai, on fait des dépliants, voilà, mais ça c'est un support, mais c'est insuffisant. Pour rendre la visibilité, pour rendre la sensibilité qui vient. Donc je ne sais pas dans quelle mesure, quitte à les inviter, quitte à faire... Je ne sais pas quel rapport...
De toute façon, pour moi, ça ne me coûte pas de demander à pour 10 personnes le repas de midi.
Non, mais pas, je ne pense pas du tout au repas, une journée particulière. Tu vois, pendant une journée particulière, voilà, une journée porte ouverte. Par exemple, il faut une visite, les enfants sont là. Maintenant qu'on a un atelier de musique permis, vois ce qu'ils font. Tu vois, leur expliquer l'organisation, et là, ils voient leur visite. Moi, d'ailleurs, je ne vous cache pas, ceux qui me donnent, moi, je les fais venir.
Parce que... Là où il y a l'exposition, quand les enfants font l'exposition de leurs travaux,
oui,
de
oui.
leur création. Il y a souvent, moi, c'est-à-dire la dernière fois, j'ai invité tous les gens que je connais.
Il y a combien qui sont venus?
Voilà. Deux, trois,
voilà, oui, il y a un travail.
J'ai même publié plusieurs annonces sur plusieurs groupes, des pages et tout.
Ouais. Non, mais comme disait
Nordé. C'est une sorte de relation.
Elle a raison, on dit les associations, ils ont
pas. Notoriété relation.
Malheureusement.
Il y a toujours avec l'image de l'association.
Mais ils ont raison. Parce que
je vais te dire, on a plusieurs associations.
Mais
il y a des gens qui donnent pour traîner.
Je discutais avec la directrice. On va toujours, on ne peut pas, c'est-à-dire on perd espoir. Il y aura toujours quelqu'un qui
qui a du cœur,
à travers des gens crédibles, etc. Voilà. Et une persévérance.
Il y a peu de gens dont on a avec le cœur. Il y a toujours des.
Oui.
Moi, je ne trouve pas ça. J'ai un objectif, je vais à mon objectif, je prends les choses comme ils sont, je m'adapte. C'est un peu psychologue aussi,
en fonction de la personne.
Tu tournes avec lui, tu lui donnes le champ de cross qu'il veut lui. C'est un objectif, c'est comme ça, tu es obligé de. Tu fais un petit commercial, tu fais un petit.
Parce que, madame Touati, le grand problème de chez nous, et je dirais même dans les pays musulmans en général, la notion de associative, elle est mal comprise.
Oui.
De donner les choses, donner les choses gratuitement, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas ? Parce qu'on n'apprend pas à l'école en disant voilà, va aider une pauvre dame, va faire une cour gratuitement. Voilà, tu te donnes un peu. Aujourd'hui, c'est des calculs. Vous avez raison, c'est des calculs. Moi, pourquoi j'ai pu ouvrir ici ? Je vais vous dire pourquoi j'ai pu ouvrir ici. Parce que j'étais présent dans la chambre de commerce. Les gens, ils avaient besoin de moi. Je vais vous venir. Je dis voilà, moi, j'ai l'intention de faire ça. Il faut m'aider. Ils sont tous venus. Et quand j'étais plus président de la chambre, maintenant, on est parti.
Une chose que tu oublies aussi, c'est que beaucoup de sessions sont ouvertes sans carte haram. Et beaucoup de voix. Le truandais.
Oui,
98%. Sur le plan politique, il apparaît.
C'est pour ça que
tu vois, ça le problème.
C'est pour ça qu'on fait rien. C'est pour ça que je disais, on n'est pas habitué à donner les choses gratuitement.
C'est pour ça qu'il faut.
Voilà, donner son temps, donner son.
Il faut des notaires de la vie qui s'impliquent de façon à dire ah, c'est la personne là, elle est crédible, c'est bon.
Voilà, on joue la confiance. Voilà.
Tout autrement, voilà, ça marche.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai découvert que j'ai. Par rapport à ça, j'ai dit, mais gars,
Merci. De rien.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, il faut prendre les chatons, mais
bien. Bien sûr.
Résonance sur Radio B avec le centre El Anna à Annaba en Algérie. Permettre à des jeunes ou adultes en situation de handicap de pouvoir exprimer leur imaginaire, leur émotion, leur ressenti, leur pensée et aussi pour l'équipe du centre El Anna, un aspect très important de l'accompagnement que souhaite mettre en place l'équipe éducative. D'où la collaboration avec l'Institut français d'Annaba, qui, par l'intermédiaire de son directeur, Bertrand Furic, a répondu très favorablement à la demande d'accompagnement qu'a sollicité l'association pour développer une activité musicale à l'intention des jeunes et adultes accueillis au sein de ce centre. Résonance sur Radio B avec le centre El Anna à Annaba en Algérie. Et là, nous avons pu entendre quelques petites secondes de ces jeunes enfants en situation de handicap en train de chanter notamment une mélodie populaire et s'accompagner dans ce moment de musique partagée. Un moment de musique partagée encadré par Selma Guémari, orthophoniste, Imen Aouidi, éducatrice spécialisée, Majda Bouraou, constitue donc cette équipe qui aujourd'hui travaille aux côtés des enfants à la mise en place de ce projet musical et essaye justement petit à petit de faire que la musique soit de plus en plus présente dans cet établissement et devienne un espace en tout cas d'expression extrêmement important pour l'ensemble de ces jeunes. Maintenant, je vous invite à justement à vous glisser dans l'un des nombreux échanges qui ont suivi les moments de pratique, un moment d'échange entre Selma, Imen et Majla.
On a remarqué les enfants qui s'intéressaient beaucoup à ça. Alors cette semaine, c'était tout le monde qui voulait participer, tout le monde qui voulait jouer. Ça a motivé les enfants pour venir, pour travailler, d'avoir quelque chose qui est nouveau.
C'est ça.
Parce que je sais que c'est tout ce qu'on a comme atelier, bon, à part la musique, tous les ateliers, on est formé pour ça, des ateliers, on essaie de changer, mais ça nous manque de nouveaux ateliers, des nouveaux...
C'est ça. Des nouveaux espaces où ils peuvent expérimenter d'autres choses.
D'autres choses, à part que c'est les ateliers manuels.
C'est ça.
Parce qu'il y a des enfants qui peuvent, on va dire, essayer le théâtre.
Bien sûr.
Oui, le théâtre.
Pourquoi pas la danse à un moment ou à l'autre.
Comme on a beaucoup de bons enfants qui adorent danser et qui savent danser sur le rythme. On a même des sourds. On a une fille qui s'appelle Imen. Elle n'entend pas. Mais quand on fait la fête... C'est pendant toute la fête et elle danse.
C'est vrai.
On n'arrive pas à comprendre comment elle fait elle a le rythme. Il faut la voir quand il y a la musique, elle danse, elle fait des mouvements. On n'a pas trouvé comment expliquer ça. On dit peut-être qu'elle écoute
c'est les phrases.
Elle est sourde maintenant.
100%.
100%.
Mais on a vu d'ailleurs dans certains des jeunes depuis dimanche quelle beauté du geste, du déplacement.
Chez beaucoup de. Elle touche les gens au plus profond de la musique.
Elle est toute heureuse.
C'est vrai.
Oui. Elle peut changer beaucoup de choses.
Moi personnellement, je suis pas bien. Je mets des écouteurs, je mets de la musique. Après une heure de temps, je me sens comme si je revis à nouveau. Mmh. Donc, côté psychologique, j'ai les idées en ordre, je me sens bien physiquement, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses nouvelles. Donc, voilà, c'est une thérapie. D'ailleurs, parce que moi, j'appelle pas ce projet musical, je l'appelle thérapie.
C'est plus thérapie que musicale.
Musicothérapie, voilà. D'ailleurs, quand on a commencé le projet, juste en parlant de ça, on a fait juste des exercices de relaxation, d'expression orale, de déplacement. Les enfants, ils étaient tout contents, ils rigolaient. Ceux qui étaient timides, ils ont eu le courage de le faire, d'assumer.
C'est ça.
Voilà, on a découvert des personnes, des personnages derrière ces personnes.
C'est ça.
Donc,
c'est ça qui va être aussi important, et on l'a vu depuis dimanche aussi, c'est que ce cadre d'expression va permettre aussi de découvrir des facettes différentes des individus. Donc du coup, ça va permettre d'élargir le regard. On connaît un enfant sur sa manière de dire, sa manière de se comporter, sa manière d'être au quotidien. Mais finalement, on connaît qu'une partie finalement de ce qu'il est, où on se fait une représentation de ce qu'il est. Et puis, à un moment donné, des cadres particuliers où l'enfant se révèle totalement autrement et nous surprend même par sa manière d'être, sa manière de réagir, de faire. Et c'est là où ils sont importants, ces moments-là, parce que du coup, ils nous permettent vraiment d'élargir la connaissance, finalement, de la personne, et donc, du coup, quelquefois, envisager des choses qu'on n'aurait pas pensé. Et du coup, ça nous donne d'autres outils pour pouvoir travailler et accompagner l'enfant ou l'adulte aussi par rapport à ça. Ah, pardon. Et c'est intéressant d'avoir vos observations, oui, de ce que vous avez, puisqu'on est sur ce sujet-là, de ce que vous avez vu ou pu remarquer vis-à-vis de certains enfants.
Sur le point de timidité, monsieur, donc j'ai remarqué Romessa, 2 ans de travail avec elle, donc elle veut chanter, danser, mais elle est un peu timide avec ses amis, avec nous. Mais. Avec vous, hier, elle était super.
Elle était tout contente.
Tout contente, oui.
Ouais, elle était très contente, elle était heureuse.
Elle était heureuse.
On s'est dit qu'elle était épanouie.
Même Fatima.
Ah, même Fatima.
Fatima, c'est toujours de la joie autour de Fatima.
Mais c'est vrai qu'elle est adorable.
Oui.
Et en même temps, elle est
épanouie dans sa vie.
C'est
ça. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, que son frère lui donne de l'amour. Et pourtant, elle est orpheline.
C'est ça. Selma m'avait dit qu'elle est orpheline, effectivement.
Et chaque enfant a son
histoire.
Son histoire.
Et oui.
Son parcours.
Son parcours d'autres enfants. Et elle s'est... Malia, son père,
D'ailleurs, il nous a raconté hier, il s'est exprimé, il était là, il vous a exprimé que son père il est décédé depuis longtemps, que s'il vit avec ses frères, sa maman, voilà, qu'il est parti au paradis.
Oui, tout à fait, je me souviens.
Et Manila, il y a avec le petit garçon qui est très chétif.
Oui, 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 oui.
Il a un problème au dos.
D'accord.
Il a une bosse.
Il a une très grande bosse et il porte une ceinture, un corset. Oui, il est très timide par rapport à son corps.
Je comprends.
Et c'est pour ça qu'il est des fois.
Oui, un petit peu
complexé, on va dire.
Bien sûr. Complexé. D'ailleurs, j'essaie de le toucher des fois pour le rassurer que
tout va bien et qu'il peut y aller.
Il y a aussi le cas de Ayman, l'autre Ayman qui a carrément
des
troubles autistiques.
Il nous fait des crises des fois très violentes.
D'ailleurs, Madame Touhem, une fois on a organisé une fête, il était agité par rapport à la foule et tout. Donc il a frappé sa fille.
Ah oui.
Donc c'était la première fois.
Et d'habitude, il n'a pas le contact avec les étrangers.
Ouais.
Même avec ses propres camarades.
Alors on était.
Inquiète.
Étonnée de venir qu'ils viennent chez nous, travailler avec nous. Et très inquiète parce qu'on avait peur s'il y avait des réactions, il pourrait faire.
C'est ça.
Mais ça va, jusqu'à maintenant ça va.
Il est tout content d'ailleurs, je n'ai pas arrêté de filmer parce qu'il avait le sourire, on voyait ses dents.
Mais oui, il avait l'air tranquille.
Tranquille, voilà. Par rapport très à serein, ça. Voilà, qui sait comment d'autres.
Oui, celui qui a la casquette, comment c'est son prénom aussi.
Loaï, il est très très très. Il s'intéresse pas à rien. Oui, il est
instable.
Il est très instable. Il était très agressif après. Je sais pas pourquoi il a fait la réaction à nous tout à l'heure. Après qu'on a terminé, d'ailleurs, on va dire, je vais les punir toutes les deux, tu vas pas travailler. J'espère qu'il va se calmer. C'est ce qu'il y a demain. Mais parce qu'il a fait. Il a frappé deux garçons.
Ah oui.
Je sais pas, mais. On a des enfants comme ça qui sont.
Même le sourire, mon fils, il mime Qasitlikom al-Hadra, il mime Selma à la maison, il fait le même sourire qu'elle, il s'assoit de la même manière qu'elle, il danse de sa main, de la manière qu'elle danse, il veut écouter la même musique qu'elle écoute.
C'est ça.
Donc,
résonance sur Radio B. Avec le centre El Anna à Annaba, en Algérie. Comme vous avez pu l'entendre, les échanges sont très riches. Chacune, que ce soit Selma, Imen, Majda, échange les impressions, les bilans, les regards. Et là aussi, c'est une manière de mettre en place, dans le cadre de ce projet, des moments d'échange, d'analyse de la pratique, et des moments qui vont être essentiels pour la conduite et le développement de ce projet. Un projet aussi qui doit pouvoir être en lien aussi avec ceux et celles qui font de la musique hors du centre El Anna à Annaba et qui sont engagés en tant que soit musiciens professionnels ou musiciens amateurs. Et lors de ce premier séjour à Annaba, j'ai pu rencontrer ce musicien très important de la musique malouf, Ambi Benani, ainsi que son fils, donc Kamel Benani, en compagnie donc de Bertrand Furic, le directeur de l'Institut français. Et donc là, des moments très riches se sont déroulés et Kamel Benani a accepté de venir rencontrer les enfants du centre El Anna et de partager un moment de musique avec eux. Et donc, c'est également un musicien talentueux et je vous propose de découvrir justement un petit air que Kamel Benani nous joue à l'intermédiaire de son oud. Thank you.
مغرومة تمشي وتزرب عشقي يا غرامي طفة خمرية.
Qu'est-ce que ça raconte?
Bon, c'est-à-dire, il parle d'une femme, quoi. Qu'il a rencontrée. La majorité des chansons, c'est l'amour. On aime, on adore les histoires d'amour.
Résonance sur Radio B avec le centre El Anna à Annaba, en Algérie. J'espère que vous avez pu savourer justement toute la musicalité de Kamel Benani lorsqu'il joue du oud ou quand il s'accompagne effectivement oud et voix, et que voilà, vous avez pu découvrir cette très belle voix qu'on aura l'occasion, je pense, de redécouvrir dans d'autres émissions. Donc nous voici arrivés au terme de cette émission consacrée au projet musical du centre El Anna, reportage réalisé entre le 1er et le 6 février dernier à Annaba en Algérie. Nous aurons l'occasion de vous donner des nouvelles de ce projet au cours de nos prochaines semaines et prochaines émissions. Un grand merci donc à toute l'équipe du centre El Anna, son président, M. Amara Alaf, sa directrice Linda Sali, à Selma, Imen, Majda, Zubeida, Mesaouda, Khadija, Semea, Najet, Ahmed, Amira, Jien et les enfants Fatima, Rachid, Lami, Riyad, Islam, Reda, Maïssa, Bilal, Imed, Habiba, Foued, Sarah, Laila et tous les autres que je n'oublie pas, Zora, Nassera, Mounira pour la cuisine, les chauffeurs Ressek, Larbi, Abolekrim, et puis bien sûr sans oublier Bertrand Furic, le directeur de l'Institut français d'Annaba, qui est le facilitateur et l'accompagnateur pour la mise en place de ce projet musical. Une émission de Résonance qui sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis dimanche donc de 20h à 21h. Vous pouvez bien sûr la réécouter, l'écouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, à l'antenne ou en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Et puis, bien entendu, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos impressions sur la page Facebook de Résonance Contemporaine. À bientôt et merci de nous avoir suivis sur Radio B.
Oh, never mind.
اسباب يا وخيي بابها احنا الخلخل وخدها باب حناني الله يا ربي بالعيون مرابي الله يا ربي بالعيون مرابي ايدا وغنت غنت ولفتي زعفانا من عيون من عيون من عيون مرادي عمري عمري